Bonjour à tous, bienvenue sur Expresso, les interviews culture et histoire de Timeline, en partenariat aujourd'hui avec le Salon Histoire de Lire à Versailles. J'ai la chance de recevoir Marie-Hélène Bellac, qui est historienne, agrégée, normale sup, auteure, spécialiste évidemment du 19e siècle, pour son livre excellent, La peur du peuple. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour.
Je suis ravi de vous recevoir. D'abord, c'est la question que je pose à tous les historiens, comment est venu votre amour de l'histoire ?
Ah, mon amour de l'histoire, je crois que ça remonte à mon année terminale. Surtout parce que j'avais un professeur qui croyait en moi, qui avait décidé de me présenter au concours général. Je vivais en Afrique, hein, Dakar, qui était un concours général d'ailleurs histoire-géographie. Et finalement, c'est en géographie d'ailleurs que j'ai été primée. Et puis, je suis rentrée en France en classe préparatoire. Et là, j'hésitais encore un peu entre les lettres, parce que j'étais vraiment une littéraire. Et puis, quand je suis arrivée à Fontenay, j'ai choisi l'histoire. Et vraiment, je m'en félicite tous les matins, même si je garde un amour de la géographie, parce que j'aime bien, et je trouve que c'est dommage qu'on en fasse moins, j'aime bien quand je me promène, essayer de comprendre les paysages, à quoi ça correspond, comment ça s'est fait. Voilà.
Bon, on sent une vraie amoureuse, en tout cas, de l'histoire et de la géographie. Alors, votre livre, donc La peur du peuple, histoire de la Deuxième République, 1848 à 52, évidemment. Est-ce que cette Deuxième République, vous diriez que c'est la base de notre vie quotidienne ?
Ah, je dirais que oui, c'est un moment fondateur, même si finalement, on ne la connaît pas bien.
Oui.
Et c'est un mouvement fondateur, encore plus, je dirais, par rapport à ce qui se passe chez nous depuis quelques années. Parce que d'abord, il y a tellement de choses, mais je vais peut-être commencer par la plus évidente, c'est la proclamation du suffrage universel, direct, masculin, bien sûr. Mais enfin, on passe quand même de 240 000 électeurs à plus de 9 millions. Donc c'est vraiment énorme. Et puis, la première fois, un président de la République est élu au suffrage universel direct. C'est Louis-Napoléon Bonaparte qui arrive en France au mois de septembre, après une élection partielle à l'Assemblée constituante, et qui, le 10 décembre, donc est élu pour la première fois président de la République au suffrage universel direct, avec plus de la moitié des suffrages et plus de trois quarts des votants, donc vraiment une bonne majorité. Et en fait, il faudra attendre le général de Gaulle pour que de nouveau on réinstitue cette élection du président de la République au suffrage universel direct. Parce qu'évidemment, Louis-Napoléon, président, a fini par devenir empereur et du coup, on n'a plus voulu donner des pouvoirs aussi importants à un homme. Donc la Troisième République, le président a peu de pouvoir, la Quatrième, etc. et même le début de la Cinquième.
C'est pas que la peur du peuple du tout. Du coup, c'est la peur de la dictature,
oui,
d'un seul homme.
Voilà,
en fait,
la peur de la dictature qui va en être. Mais alors au-delà, oui, puisque la peur du
bien
peuple,
sûr,
c'est le titre de mon livre, c'est aussi une période fondatrice par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, parce que pour la première fois, le socialisme émerge sur la scène politique. Hein, en fait, c'est pendant la première moitié du 19e siècle qu'ont fleuri les doctrines socialistes, ce que Marx a appelé les socialismes utopiques. Donc Proudhon, la propriété c'est le vol, Cabet, Voyage en Icarie, Fourier, Louis Blanc, l'organisation du travail, très très important. Louis Blanc devient l'un des ministres du gouvernement provisoire. Et quand la République est proclamée, d'abord les Républicains, cette fois-ci, n'ont pas l'intention de se laisser voler la République, parce qu'en 1830, quand le roi avait dû fuir, il y avait des républicains, mais ils n'avaient pas réussi. Et c'est donc Louis-Philippe qui était devenu roi des Français. Et Lafayette disait ce serait la meilleure des républiques. Ben, ça n'a pas été du tout la République. Donc en 1848,
il s'est vraiment trompé sur tout, Lafayette, de toute façon.
Donc en 1848, les républicains sont bien décidés à que la République soit proclamée. Ils l'imposent sur la place de l'Hôtel de Ville. Ils manifestent. Et un certain nombre d'entre eux veulent une république socialiste, avec même un ministère du bonheur, donc reconnaître, ils y arrivent d'ailleurs, le droit à l'existence par le travail, l'organisation des travailleurs, etc. Et donc, s'affronte tout de suite cette république socialiste et une république libérale, qui a un peu une coque vide en fait, hein, puisqu'elle est adoptée par des gens qui étaient monarchistes, hein, un peu avant souvent, et qui espèrent simplement là pouvoir instaurer un régime sans roi au moins momentanément, mais libéral. Et donc c'est à ce moment-là que va se faire finalement la scission qu'on a vécue toujours jusqu'à nos jours entre la gauche et la droite. Hein, cette gauche en France, c'est quand même qui est très spécifique, hein, qui est une gauche socialiste communiste. Bon, à l'époque, les deux termes sont un peu interchangeables. Oui. Hein, on dit aussi les rouges. On dit les rouges. Et puis, la droite libérale. Donc ça aussi, je pense que c'est très fondateur de notre vie politique
actuelle. Oui, tout à fait. J'allais dire, tout est né quasiment à ce moment-là. Je reviens deux secondes sur ce que je disais tout à l'heure, enfin sur ce qu'on disait. C'est vrai qu'il y a la peur du peuple, mais la peur aussi de la dictature d'un homme qui finira finalement par arriver.
Extrêmement habilement.
C'est ça. Elle était déjà en gestation,
en fait.
Il l'avait prévu.
Oui, alors évidemment, puisqu'il avait essayé déjà de reprendre le pouvoir avec deux coups d'État, en 36 à Strasbourg et puis ensuite à Boulogne.
C'est pas un perdreau de
Non, mais sa mère, Hortense, lui avait bien dit qu'il se devait d'être quelque chose. Sa mère, Hortense de Beauharnais, était donc la fille de Joséphine de Beauharnais. Joséphine avait épousé, avant de connaître Bonaparte et avant la Terreur, elle avait épousé donc un noble, et elle avait eu deux enfants, Eugène et Hortense. Et c'est Hortense, la fille chérie de Napoléon Ier, qui lui passait tous ses caprices, qui finalement éduque son fils, parce que quand ils partent en exil, en 1815, il a 5 ans, et donc elle l'élève dans plus que le souvenir de l'Empire. Et puis alors, un empire revu, surtout avec, on a le mémorial de Sainte-Hélène, et puis il ne faut pas oublier qu'en 1840, il y a le retour des cendres, il y a une nouvelle vision de Napoléon,
le romantisme
qui s'est imposé, et elle a toujours dit à ton fils, il faudra que tu sois quelque chose, et il va être quelque chose.
Napoléon III. Il va effectivement réussir. Est-ce que c'est un monde qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer petit à petit? On parlait des romantiques, on parlait du socialisme, etc., c'est déjà en gestation.
C'est un monde, on est en train vraiment de basculer, je dirais, dans un autre monde, complètement. Alors, à la fois sur le plan politique, c'est aussi l'abolition définitive de l'esclavage, c'est l'abolition de la peine de mort en matière politique, c'est la création du timbre-poste, ça a l'air un peu secondaire, mais c'est très important.
Coûte cher.
Parce que, et ça va permettre finalement aux Français de communiquer entre eux à prix unique. Mais c'est aussi quand même l'entrée dans la modernité, parce que Louis-Napoléon a passé une grande partie de sa vie d'abord en Allemagne et puis aussi en Angleterre. Et là, il s'est beaucoup intéressé à l'industrialisation d'Angleterre. Il a même écrit un livre important sur le paupérisme, l'extinction du paupérisme. Il a rencontré d'ailleurs des socialistes, notamment quand il est en prison. Et c'est un homme qui veut développer le pays. Et souvent, on parle du développement des chemins de fer et de l'industrie comme si c'était le fait du Second Empire. Ça commence dès cette période. Et d'ailleurs, j'irais même le style de Louis-Napoléon. Il invente le voyage présidentiel.
Oui, c'est vrai.
Il se promène. Il va d'ailleurs pas forcément dans les endroits qui lui sont le plus favorables. Et il inaugure les gares. Il voit les ouvriers, il va à leur contact, ce qui effraie parfois ses proches.
C'est peut-être ce qui a été la frustration de Napoléon, de Victor Hugo, c'est-à-dire qu'il était très proche de lui au moment du paupérisme, etc. D'un coup,
Et puis alors surtout, Victor Hugo était pair de France, c'était déjà en 1848 un homme connu, mais il votait à droite. Et au départ, notamment au moment des journées de 1848, il était vraiment du côté de l'ordre. Il était absolument contre les ouvriers, il fallait les écraser sans ménagement. Et puis alors, il a espéré jouer un rôle plus important auprès de Louis-Napoléon, ce qu'il n'a pas réussi. Louis-Napoléon n'a pas voulu. Alors, il y a certainement une part de ressentiment, une part aussi peut-être certainement d'évolution de ses idées, mais il devient un de ses plus durs opposants. Et d'ailleurs, la fameuse formule Napoléon le Petit, il ne l'invente pas en exil, il l'invente dès cette période.
Il ne s'en sortira jamais, d'ailleurs. Ça lui colle à la peau. D'où l'image qu'on a de Napoléon III aujourd'hui. C'est quoi cet homme qui... Le discours est extraordinaire à la chambre. Cet homme, il va soulever le sceptre des géants, mais qui est-il pour ça? Parce que nous avons eu Napoléon le Grand, ayons Napoléon le Petit. C'est extraordinaire, c'est hugolien.
C'est-à-dire avec tout l'excès. D'ailleurs, tout ce qu'il écrit après est complètement faux. Mais c'est vrai que du coup, parce que c'est excessif,
part en exil, je serai le dernier. S'il en reste qu'un, je serai celui-là. C'est extraordinaire. Pourquoi cette période est mal aimée, mal connue, mal apprise?
Alors, d'abord, parce que c'est vrai que je crois que l'histoire de la République a beaucoup focalisé sur l'écrasement sur juin 48, où le Paris ouvrier a été écrasé. j'irais, c'est la première fois, la deuxième fois, ça va être la commune. Hein, c'est exactement le même état d'esprit. Flaubert, notamment, écrit des pages sur ce qui se passe dans les cachots du bord de l'eau, hein, où on tire sur les prisonniers à la fin, après les journées de juin, qui sont absolument terribles. Et donc ça, je crois que c'est une première raison. Du coup, on a eu tendance à oublier le reste. Ensuite, comme vous le disiez vous-même, c'est l'image qui colle à la peau de Louis-Napoléon. Donc du coup, on voit en lui le dictateur. En fait, on s'aperçoit qu'il n'avait pas tellement envie d'un coup d'État. Il a tout essayé pour essayer de garder le pouvoir, parce que la Constitution ne l'autorisait pas à se présenter une deuxième fois. Donc il ne pouvait pas légalement, il fallait changer la Constitution. Et vraiment, il a essayé de trouver une solution alors que son entourage le poussait au coup d'État. Et d'ailleurs, ce coup d'État, il en a toujours porté enfin une sorte de blessure. Hein. Et du coup, on a vu que ça sans s'apercevoir qui était l'homme derrière. Et puis aussi, les conservateurs l'ont décrit dans cette période comme un homme sans intérêt. Thiers disait « ce crétin que l'on mènera ». Oui, ils pensaient en fait que Napoléon, ils allaient le manipuler pour eux garder le pouvoir. Et puis c'est le contraire qui s'est passé. Alors c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir finalement, quoi qu'on en pense, l'intelligence de cet homme. Hein, qui faisait des cocottes en papier au conseil pour faire croire que...
Mais c'est vrai. Ceci dit, plus jeune, il n'était quand même pas extrêmement brillantissime. Avec ses coups d'État ratés, etc., ça donnait une image.
En plus, ses coups d'État ratés, oui, il donnait, puis s'était enfui du fort de Hamme.
C'est rocambolesque. C'est un personnage de roman, en fait. C'est
complètement. Moi, je pense qu'il y avait quelque chose à faire. En plus, il n'était pas beau.
Sur Netflix.
Oui, tout à fait. Il parlait avec un accent allemand.
Il paraît qu'en
privé, c'est un homme extrêmement séduisant.
Certainement.
Bon, ça arrive souvent, ce genre de choses, en fait.
Effectivement, je ne peux pas vous dire. Qu'est-ce qui s'est passé entre du paupérisme, donc celui qui écrit du paupérisme, à la fête impériale? C'est, on va dire, totalement l'inverse. Qui s'est passé entre...
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Louis-Napoléon a laissé le parti de l'ordre mettre de l'ordre, c'est le cas de le dire, en étant extrêmement habile. Par exemple, quand les partisans de l'ordre ont décidé de réduire le suffrage universel, de restreindre le suffrage universel, qu'on est donc passé en 51 de 9 millions à 6 millions, il s'est tenu à l'écart et il l'a condamné. Et d'ailleurs, avant son coup d'État, il demande qu'on restitue à nouveau le suffrage universel. Donc, il continue à apparaître comme l'homme qui propose des réformes. Je disais tout à l'heure, il va au contact des ouvriers. Dès la République césarienne, hein, il crée le crédit foncier, par exemple. Vous voyez, donc il va s'intéresser aux asiles de pauvres. Enfin, il a vraiment quand même une action.
Il a une fibre
sociale, je pense qu'en plus, qui est sincère. Alors, je pense qu'il y a quand même une sorte de compromis. On a tendance à voir... le côté dictature, mais George Sand dit par exemple que, et Proudhon aussi, que même si la presse n'avait pas été muselée, les paysans auraient voté pour l'Empire. D'ailleurs, justement, les paysans avaient peur aussi, ils avaient peur des ouvriers parisiens, de ces gens qu'on avait mis dans les ateliers nationaux, qu'on leur donnait de l'argent, et puis les parlementaires qui avaient maintenant une indemnité. Donc Paris, on trouve aussi à cette époque l'opposition, bon, qui n'est pas nouvelle, mais entre Paris et la province. Hein. Et la province n'aime pas Paris.
Non, ça ne l'a jamais aimé, puis ce n'est pas fini. Ça, je crois.
J'ai peur.
Il suffit d'aller à Marseille pour ça, effectivement. Il y a aussi... Est-ce qu'on peut dire que c'est la République la plus lettrée, la plus cultivée qu'on ait eue?
Il y a un concours de circonstances qui fait d'abord qu'il y a un certain nombre d'hommes de lettres qui jouent des rôles de premier plan. On parlait tout à l'heure de Victor Hugo, mais c'est Lamartine.
Lamartine
qui est le vrai chef du gouvernement provisoire. Là aussi, le destin de Lamartine, c'est absolument extraordinaire, parce qu'il croit... son heure de gloire arrivée. Il pense qu'il va réussir à tenir la balance entre les socialistes. D'ailleurs, il repousse le drapeau rouge. Hein. Il y a ce tableau tellement célèbre. Il impose le drapeau bleu, blanc, rouge, celui qui a fait le tour du monde. Et donc, il pense qu'il va tenir la balance entre les socialistes et les libéraux, qu'il va réussir à arbitrer. Et d'ailleurs, au début, en février 48, il y a un certain nombre de gens qui sont absolument... qui trouvent c'est un homme absolument extraordinaire. Et puis, très vite, il va se perdre. Et donc, il n'est pas élu président de la République. Et puis, c'était terrible pour lui, c'est une descente aux enfers. Ouais, on a un destin absolument horrible. Bon, alors, on a aussi George Sand, la bonne dame de Nohant, qui était très amie avec Ledru Rollin, le ministre de l'Intérieur. Elle a d'ailleurs écrit des bulletins de la République. Elle a pas mal appelé à l'agitation. Et elle aussi, elle dit, dès 48, ça y est, la République est morte. Hein. Et puis, il y a aussi des écrivains.
Flaubert.
Je pense à Flaubert. Flaubert, hein, à mon avis, c'est quand même ce qu'on peut lire de plus passionnant sur, et même, je dirais, de plus émouvant, parce qu'il fait sentir des choses, des fois, mieux que n'importe qui, quoi. En quelques lignes, il montre comment le pouvoir se délite, il montre les Tuileries envahies. Enfin, c'est vraiment passionnant. Et puis la République, surtout, hein, qui meurt sur les grands boulevards. Et puis, je pense aussi à Zola. Parce que le premier volume de la série des Rougon-Macquart, ça se passe au moment du coup d'État du 2 décembre. Donc, à Plassans, un village imaginaire qui ne l'est pas complètement, et où on voit comment monte justement l'Empire, hein, et les riches.
Oui, tandis on a que toute les... la société d'ailleurs
voilà,
dans
on
ce
a toute
petit
la
village,
société qui
la
est
conquête
décrite,
de Plassans. Donc,
il a d'ailleurs aussi laissé un livre moins connu et moins important, Zola, sur Marseille. Sur la révolution à Marseille, vous voyez. Bon. Et puis, on a des tas de gens qui donnent leur avis. Je pense à Vigny, à Balzac, à Baudelaire.
Tocqueville. Hein.
Donc, et puis, bon, je dirais les grands penseurs comme Rémusat, comme Tocqueville, évidemment, qui ont laissé des pages très intéressantes. D'ailleurs, je trouve, je relisais un peu les passages de mon livre parce que je suis dans autre chose en ce moment pour un peu me remettre en tête. Et je me disais quand même, tous ces gens-là ont laissé des témoignages, et souvent des témoignages sur le vif, enfin des journaux qu'ils ont écrits au jour le jour, qui montrent des analyses politiques extrêmement fines. On est étonné parce que j'ai pas le sentiment qu'on vive ça aujourd'hui, voyez.
Est-ce que, bah justement, à propos de vivre ça aujourd'hui, là on disait qu'il y avait des personnages extrêmement cultivés. Aujourd'hui, on dirait que c'est presque l'inverse, sans vouloir évidemment faire un miroir, mais c'est vraiment, on est dans une pauvreté culturelle. On en parlait encore tout à l'heure. Pauvreté culturelle, il y a plus grand chose. Même nos élites sont plus du tout cultivées. Est-ce que c'est l'exact inverse?
Non, j'irai pas jusqu'à dire ça. Puis moi, je suis un peu optimiste.
Je
dis qu'il y a peut-être des choses qu'on connaît pas, qu'on sait pas et qu'on verra, qu'on trouvera, que l'historien trouvera. Mais c'est vrai que, il n'y a qu'à lire ceux qui se proclament, soi-disant, nos penseurs, nos philosophes. Ça, c'est rien du tout, quoi. C'est nul. Excusez-moi, mais...
Exact, hein, oui, c'est vrai. Voilà. Et au contraire, est-ce qu'on peut vivre un peu la même chose? C'est-à-dire que nous aussi, on est en train de vivre un changement de monde.
Ah oui, oui. Oui, et je pense à... Oui, bien sûr, où on a ce flou politique, où on parle de la césure gauche-droite, mais enfin, on ne sait plus, les frontières sont devenues complètement floues. Il y a aussi cette idée qui a quand même ressurgi avec les gilets jaunes et puis qui continue, à savoir que si l'Assemblée n'est pas, ne fait pas ce que veut le peuple, et elle n'est pas bonne. Hein, à la limite, régulièrement, on nous rappelle le droit à l'insurrection et qu'en fait, la République représentative est mise en cause. Et c'est le cas à ce moment-là aussi.
J'allais y venir, c'était la question qui suivait, la peur du peuple. C'est aussi aujourd'hui. On a l'impression parfois de revoir les tricoteuses qu'on avait sous la Révolution française. C'est-à-dire, vous avez intérêt à voter ce qu'il faut.
À voter ce qu'on vous dit, parce que sinon,
on
vous attend à la sortie.
C'est ça, c'est
terrible. C'est exactement ça. Et je pense que c'est un peu ça. Quand on lit un certain nombre de choses, qu'on voit un certain nombre de choses, et c'était ça à ce moment-là.
Oui,
il y a des propos extrêmement violents. Et par exemple, le 15 mai 1848, vous voyez, on n'est pas loin de février, le peuple envahit l'Assemblée, un certain Hubner, qu'on ne sait pas d'où il surgit, c'est un agent double, proclame l'Assemblée dissoute, il part à l'hôtel de ville, Lamartine arrive à temps, il reprend le pouvoir en main, mais il y a des tentatives de prise de pouvoir, il y a beaucoup de journées insurrectionnelles.
C'est un peu le bazar,
vous
avez raison d'être optimiste, effectivement. On va rappeler quand même que c'est la Deuxième République qui instaure le drapeau bleu-blanc-rouge.
Le drapeau bleu-blanc-rouge, définitivement, puisque Lamartine écarte le drapeau de sang, et donc réussit à imposer ce drapeau bleu-blanc-rouge, alors même que Blanqui, qui était sorti de prison le jour de la proclamation de la République, tous les politiques qui étaient enfermés ont été libérés. Et Blanqui, celui qu'on a appelé l'insurgé, l'enfermé, qui a vécu une grande partie de sa vie en prison, qui pensait qu'on ne pouvait prendre le peuple ne pouvait prendre le pouvoir que par la force, que par l'insurrection, était pour le rétablissement du drapeau rouge. Et puis il a compris il a estimé que la situation n'était pas mûre. Donc,
Avant les questions du public, j'aime bien poser deux petites questions pour vous connaître un petit peu mieux. Quel est votre livre préféré, à part le vôtre?
Oh non, c'est Voyage au bout de la nuit.
Ah bah oui, très bien. Et votre plat préféré, tiens?
Ouh, Waouh, alors là, vous savez, je suis gourmande.
Eh ben, justement.
J'ai même écrit sur la gastronomie. Alors, quel est mon plat préféré? Oh, qu'est-ce que c'est difficile.
Ouais, j'aime bien poser des questions dures, comme ça, ça laisse du temps pour chercher.
Non, mais parce que je vous dis, en plus, je fais beaucoup de cuisine. Eh ben, j'aime tout simplement un plat que faisait ma mère, qui est un sauté de veau aux olives.
Ah, ça donne
avec
faim.
Des carottes, des pommes de terre. Et c'est très, très bon, parce que les pommes de terre donnent de l'onctuosité à la sauce. Bon, on singe un peu avant, quand même, avec un peu de farine hein, pour épaissir. On fait cuire longuement et c'est vraiment un régal. C'est très facile.
J'espère qu'il y a des notes qui sont prises là. Bon, si vous avez des questions, allez-y. Madame, tout à fait. Alors, je répète très rapidement, je synthétise. Est-ce que cette peur du peuple ne vient pas de la Révolution? Excellente
oui.
question. Hein.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, ce dont les possédants ont peur, enfin l'élite a peur en février 48, c'est d'un retour à 93. Hein. Même si c'est vrai qu'il y a un certain nombre de livres avant qui ont essayé un petit peu, je parlais tout à l'heure de l'histoire des Girondins, mais il y en a d'autres, hein, de donner une image plus positive de la Révolution et de gommer hein, cet aspect terreur. Mais c'est bien ça qui fait peur, hein, effectivement. Oui, oui.
Très, très bonne question. Est-ce qu'aujourd'hui, nos élites ont peur aussi du peuple, à votre avis?
Peut-être.
Peut-être.
Peut-être. Alors, je trouve que c'est très compliqué, parce que vous comprenez, même si nos élites... Enfin, là, on se lance dans autre
oui,
chose.
Non,
hein.
Mais...
Je pense que même si nos élites ont
entre nous.
Peur du peuple, comment n'aurait-elle pas peur aujourd'hui? Parce que c'est bien beau de dire il faut faire ci, il faut faire ça, mais si on le fait, aussitôt, tout le monde va se lever contre.
Oui.
Vous voyez?
À l'époque, il y avait l'explosion des journaux.
Voilà.
Ouais. Aujourd'hui, c'est l'explosion des réseaux sociaux.
Oui, oui, oui.
Un peu plus imbécile, puisque là, tout le monde a la possibilité d'écrire.
Oui. Donc, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. On n'envoie pas la troupe aujourd'hui comme ça. Hein. C'est, voilà. Hein, enfin, on ne répète pas juin 48, heureusement.
D'autres questions, monsieur.
Oui, alors donc, à partir de cette époque-là, il y a peut-être couronné à la tête de la France.
Oui, c'est le dernier.
À votre avis, est-ce que ça entraîne une forme d'affaiblissement de la position du pays au regard du concert des nations européennes?
Bonne question.
Alors, je pense que Lamartine a joué un rôle extrêmement important. En fait, je dis c'est le chef du gouvernement de fait, mais nominalement, il est chef des ministres des Affaires étrangères. Et il a essayé quand même. Et puis ensuite, Louis-Napoléon aussi, finalement, va bien s'en tirer, hein, parce que c'est là le vrai problème. Donc, il a su, en fait, à la fois faire face à toutes les revendications des peuples européens, parce qu'il ne faut pas oublier que la Révolution française de 1848 se place dans un contexte plus général de ce qu'on a appelé le printemps des peuples. Il n'y a pas qu'en France, il n'y a pas que la France qui s'agite. Bon. Et à Paris, il y avait, comme la France avait cette image libérale, il y avait énormément de communautés, notamment les Polonais, les Italiens, les Irlandais, bon, j'en oublie certainement, mais enfin, tant pis, qui étaient des minorités très remuantes et qui ont tout de suite demandé à la France d'intervenir pour les aider à établir la République chez eux. Voyez. Et Lamartine a su finalement naviguer pour quand même soit le droit des peuples, mais qu'on n'allait pas se mettre l'Europe à dos. Parce que Lamartine était très conscient de ça, que la France n'avait pas les moyens de se mettre l'Europe à dos. Et donc, il y a réussi. Et finalement, il y a aussi une affaire qui a été très importante, c'est effectivement l'affaire de Rome. Hein, puisque le pape, le pape était relativement un libéral, qui a promis d'octroyer une constitution dans ses États, et puis qui a fait machine arrière. Et alors, il faut que j'essaye de résumer ça très vite. En fait, la France a fini, devait venir en aide aux républicains romains, et elle est venue en aide pour rétablir, contre les républicains, pour rétablir le pape sur son trône. Donc, il y a eu un mouvement de bascule. Ça a été d'ailleurs des moments assez compliqués, hein, où Louis-Napoléon a dû reprendre les choses en main, même passer outre très habilement, hein, toutes les protestations. Mais du coup, la France a empêché que ce soit l'Autriche qui prenne la situation en main en Italie. Donc, il y a quand même eu un jeu assez habile. Alors après, l'autre problème, effectivement, c'est pour Louis-Napoléon. Finalement, pourquoi il hésitait à passer à la proclamation de l'Empire, une des raisons, c'était sans doute qu'il craignait que l'Europe se dresse contre. Et il a, là aussi, assez bien négocié, moi, dans un premier temps.
Et pour finir avec Lamartine, petite anecdote amusante qui m'amuse toujours, c'est que quand, au moment de l'élection présidentielle, dans les campagnes, on ne pouvait pas voter pour Lamartine. Qu'est-ce que c'est que cette femme qui se présente? Qu'est-ce que c'est que cet homme bizarre, inverti? Donc, voilà, une des raisons qui ont fait sa défaite.
Qui en plus est à coquiner avec le duc Rollin.
C'est ça, exact, ça n'aide pas.
Et avec la Marie, Marie qui était ministre aussi.
Voilà, moi, j'aime beaucoup, c'est très savoureux. Merci beaucoup Marie-Hélène Bellac, vraiment formidable livre. Merci beaucoup. Voilà, fin de ce numéro d'Expresso. Retrouvez toutes nos interviews sur timelinepodcast.fr et sur toutes les plateformes de podcast. On se donne rendez-vous au prochain numéro avec un nouvel invité.